Aujourd'hui, nous allons regarder dans le livre des Proverbes, qu'est-ce qui est dit sur la sagesse et le travail. Alors, une petite question pour commencer. Qu'est-ce qui aime travailler? Qu'est-ce qui aime travailler? Levez la main si vous aimez travailler. Je vois que... D'accord, parce qu'en fait... Merci. En arrivant à l'église ce matin, je me suis dit, bon, en fait, il y avait quelques petites tâches de ménage, des choses à faire pour rendre l'église un peu plus propre. Il y avait des plantes à arroser, il y avait des choses dans la cuisine. Donc, en fait, ce que je propose, on va faire un petit exercice pratique. Donc, en fait, j'ai vu plus de mains de ce côté-ci. Donc, vous allez être les travailleurs. Et sur l'autre côté, un peu moins. D'accord? Donc, vous allez être les dormeurs. D'accord? Donc, juste, j'explique ce que vous avez à faire. Donc, les travailleurs, vous allez chercher des balais, vous allez des cruches pour remplir d'eau les plantes. Vous allez, voilà, prenez les balais, nettoyer. Voilà, tout pour rendre l'église plus beau. D'accord? Les dormeurs, vous allez dormir, vous allez ronfler, vous allez retourner dans votre lit, d'accord? Ici, on essaie de vous réveiller, mais non, j'ai pas envie, d'accord? On fait ça? Allez, c'est parti! Depuis quelques semaines, nous regardons le livre des Proverbes, qui contient une sagesse pratique pour la vie de tous les jours, dans le monde que Dieu a créé. Et nous avons suivi les premiers chapitres, qui concernait le début de le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel. Moi, je n'ai pas travaillé, donc je n'ai pas le droit, c'est bon. Les avertissements de la sagesse, la valeur de la sagesse. Et la dernière fois, c'était la conférence de presse où la sagesse elle s'est présentée elle-même. Et cette fois-ci, on considère les proverbes qui parlent du travail. Dans ce livre, à partir du chapitre 10, nous trouvons un grand nombre de petits proverbes et ils ne sont pas classés par thème. Donc, maintenant, c'est un travail pour tout le monde. Alors, prenez une Bible, soit une Bible en papier ou sur votre téléphone. Alors, nous avons des Bibles sur la petite étagère si vous en avez besoin. Sinon, vous pouvez partager une Bible entre par deux. Alors, pour les gens à ma droite, donc vous devez chercher Proverbes, le livre de Proverbes, le chapitre 19, et vous devez trouver les proverbes qui parlent du travail. D'accord? Donc vous, c'est le chapitre 19, et vous, à ma gauche, vous, c'est le chapitre 20. Trouvez les proverbes qui parlent du travail. Si vous pensez en avoir trouvé un, levez la main. Et dites-nous le verset et vous pouvez même le lire. D'accord? Donc, cherchez les proverbes, chapitre 19, chapitre 20, qui parlent du travail. Je pense qu'il y en a au moins deux. Alors, Naomi pense avoir trouvé un. Oui, okay. Leslie? Alors, on attend. Vous avez le droit de lire en diagonale pour chercher des mots comme
travail,
labeur,
ah oui.
fiche de paie, bulletin. Oui, Tim, il en a trouvé un. Oui, vas-y, quel verset?
Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène même pas à sa bouche.
Le paresseux plonge sa main dans le plat, il ne ramène même pas à sa bouche. Très bien. Zoé, vas-y Zoé, d'abord.
À la saison froide, le paresseux ne laboure pas au temps de la moisson, il cherche à récolter, mais il ne trouve rien.
Merci. Donc c'est l'idée de la récolte, il ne récolte pas. Leslie, qu'est-ce que tu as trouvé à ce verset? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Alors, c'est l'acheteur. Ah, d'accord. Donc, Donc c'est, oui, plus sur le thème de, oui, de l'achat, de l'insatisfaction, ou de, en fait de dire oh, c'est mauvais, et en fait quand il parle, il dit ouais, super affaire. Ouais.
Juste avant,
pardon. Oui, vas-y, juste.
Verset 15, la paresse plonge dans la torpeur et l'indolent souffrira de la faim.
Oui, paresse plonge dans la torpeur. Et Rachel?
Chapitre 20, c'est « N'aime pas trop le sommeil pour ne pas finir dans la pauvreté. Garde tes yeux ouverts et tu auras de quoi te rassasier. »
Merci. Très bien. Donc, juste pour vous montrer que ces proverbes sont dispersés un peu partout dans le livre. Et donc, ce que nous allons faire, c'est de regarder plusieurs proverbes. Il y en a à peu près une trentaine dans le livre qui parle de ce thème du travail. On ne va pas les regarder tous, mais je vais projeter quelques-uns à l'écran. Donc, regardez avec moi. J'espère que c'est visible depuis le fond de la salle. « Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni commandant, ni contremaître, ni chef. » Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assouper, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur. Et la misère comme un pillard. Proverbe 6, 6 à 11. La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. Celui qui amasse des provisions en été est un fils intelligent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Proverbe 10, 4 et 5. Qui travaille sa terre aura du pain en abondance. Qui court après des futilités est dépourvu de sens. Proverbe 12, 11. Le paresseux éprouve des déserts, mais n'arrive à rien, alors que les aspirations des gens actifs seront comblées. Proverbe 13, verset 4. À tout travail, il y a du profit, mais le bavardage mène au dénuement. Le livre des Proverbes nous montre deux personnages qui représentent deux attitudes opposées au travail. Il y a le paresseux, oh, trop la flemme, et il y a la personne active. Et quand on met ensemble, quand on rassemble tous ces proverbes, nous avons un portrait de l'un et de l'autre, un contraste, un fort contraste entre ces deux personnages. Et comment sont-ils décrits? Le paresseux travaille avec une main nonchalante et il est oisif, il aime dormir, poursuit des futilités, il refuse de travailler, il préfère le bavardage plutôt que le travail, sans les excuses, mais vraiment bidon pour ne pas travailler, comme le paresseux dit: il y a un lion là dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue. Excellente excuse pour ne pas travailler. Je risque ma vie en sortant de chez moi parce qu'il y a des lions. Vous avez déjà vu ça, des lions qui se baladent dans les rues de Paris? Pas en Israël non plus. Il n'y avait pas de lions dans les rues. Donc le paresseux sort des excuses pour ne pas travailler, pour ne rien faire. Quand c'est le temps de la moisson, le paresseux il veut juste rester au lit. Et le paresseux ne va jamais jusqu'au bout de ce qu'il commence. Et l'image le plus fort, c'est le verset que Tim a lu. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il ne la ramène pas à sa bouche. Donc, la nourriture est là. C'est trop la flemme pour aller jusque-là. Non, c'est trop d'effort. Franchement, oh, non, je peux pas. Désolé. Non. Trop la flemme. Et la personne active est décrite comme étant ayant la main active qui récolte en été, qui travaille sa terre, qui est prudent, qui tout le contraire, qui est productif, qui met la main à la pâte. Quand il y a du travail à faire, bah, cette personne, elle se lève, elle se met au travail. Et la manière dont les proverbes nous enseignent sur le travail, au lieu de nous donner des ordres directs, fais ceci, ne fais pas cela, le livre nous invite simplement à considérer les conséquences de ces deux attitudes. Qu'est-ce qui se passe aux paresseux? Et nous lisons la faim, la pauvreté, des désirs qui ne sont pas satisfaits, le manque, il n'a rien, la honte, on lui met au travail forcé, ça le tue, un frère de celui qui détruit. Et la personne qui travaille, on parle d'abondance, d'être rassasié de pain, d'être fourni, d'avoir beaucoup de choses, d'avoir une richesse précieuse. Qui est celui qui est sage? C'est celui qui décide de mettre un effort et qui bénéficie du fruit de son travail. Ses besoins sont comblés parce qu'il a travaillé. Et qui est l'insensé? C'est celui qui aurait pu travailler, mais qui ne voulait pas. Et qui se trouve en conséquence en manque. On pourrait dire que c'est la version biblique de la cigale et la fourmi.
C'est ça.
Et donc il y a un principe général que l'on voit ici dans les proverbes. Celui qui travaille bien aura suffisamment pour ses besoins. Mais la personne qui ne veut pas travailler va souffrir le manque. Alors, avant d'aller plus loin, quelques remarques sur cet enseignement. D'abord, le livre des Proverbes contient des principes et non pas des promesses. Il est possible de bien travailler et cependant se retrouver dans le besoin. Et il est également possible d'être très feignant et de devenir riche. Mais c'est plutôt l'exception que la règle. En général, le travail est récompensé. Ça fait partie de l'ordre que Dieu a établi dans le monde. Une deuxième remarque, bien que le livre des Proverbes présente une image très positive du travail, l'auteur n'est pas naïf. Il sait que le travail n'est pas toujours doux et agréable, que le travail comporte son lot de peine et de frustration. On n'est pas dans le monde des bisounours. Si on considère Proverbe 16, verset 26, « La faim du travailleur est une bonne collaboratrice. Sa bouche le pousse à travailler. » Le besoin d'acheter la nourriture ou payer nos factures, c'est parfois la motivation pour continuer à travailler quand le travail en lui-même n'est pas très, très épanouissant. Si le travail était un pur plaisir, ben le paresseux n'aurait aucune raison de l'éviter. Donc l'auteur est réaliste sur le travail. Ce ne sera pas toujours facile. Il y a un effort à fournir. Ça nous coûte quelque chose de travailler. Mais ça en vaut la peine. Et troisième, bien qu'il soit normal que le travail soit un élément important dans notre vie, le livre des Proverbes ne dit pas que le travail est notre raison d'être ou notre but ultime dans la vie. Le livre ne dit pas que parce que le travail est récompensé, alors il faut travailler le plus possible pour gagner le plus possible, comme si l'argent était notre but ultime dans la vie. C'est normal d'être actif, d'être productif, mais le travail n'est pas tout. Le contexte pour cet enseignement, c'est l'équilibre entre le travail et le repos que Dieu a établi pour son peuple par le sabbat. 6 jours de travail suivis d'un jour de repos. Nous avons besoin de dormir, nous avons besoin de repos. Nous ne sommes pas des robots. Donc on a considéré ce que les proverbes, le livre des proverbes dit sur le travail. Mais peut-être que vous vous dites, finalement, c'est quoi le lien avec Dieu? Quel est le rapport à Dieu? Parce que si nous avons la cigale et la fourmi dans les fables de La Fontaine, si nous avons Sarkozy qui dit qu'il faut travailler plus pour gagner plus, est-ce que ça veut dire que les proverbes, c'est simplement du bon sens qui est valable pour tout le monde, qu'on soit croyant ou pas? Et c'est une question légitime. Quel est le rapport à Dieu dans ce qui est dit sur le travail? On a vu dans les proverbes que il est question de sagesse qui prend comme son point de départ la crainte de l'Éternel. Vivre d'une manière qui tient compte de l'existence de Dieu et tout ce qu'il est. Et dans cette perspective, on ne peut pas être sage sans avoir la foi en Dieu. Mais parce que le livre est concerné par les réalités de la vie, comment bien vivre dans le monde tel qu'il est, il est possible que les non-croyants qui ont considéré le monde, qui puissent arriver à des conclusions similaires, par exemple sur la valeur du travail, qui vaut mieux bien travailler que d'être paresseux. Mais c'est quand on considère tout le reste de la Bible, toute l'histoire biblique, que l'on voit à quel point la foi chrétienne change notre regard sur le travail. Parce que le livre des Proverbes, ça fait partie d'une conception du travail qui est fondamentalement chrétienne. Et donc ce que j'aimerais faire, c'est très très rapidement faire un survol de la Bible éclair, du début jusqu'à la fin, pour voir la relation entre le travail et la bonne nouvelle de Jésus, l'Évangile. Alors, vous êtes prêts? Bouclez les ceintures, ça va vite. Alors, la création. Tout au début de la Bible, Dieu, il bosse. C'est un artisan. Il crée et il crée le monde. Il y a une grande différence entre le livre de la Genèse et la mythologie d'autres pays où on imaginait que les dieux, parce qu'ils ne voulaient pas travailler, ils ont créé les hommes pour travailler à leur place. Mais dans la Bible, c'est Dieu qui fait le travail de création. Le travail est bon. Et dans son monde qu'il déclare très bon, Dieu donne un travail aux humains de garder le jardin, s'occuper du jardin. Avoir une occupation, une activité utile, c'est une bonne chose pour l'humanité. Mais après vient la chute. L'homme désobéit à Dieu et il souffre les conséquences de la rupture de la relation avec son Créateur. Une des conséquences, c'est que le travail devient pénible. Dieu, quand il dit à Adam, la terre va produire des ronces et des épines, c'est par le sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Et c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. À cause du péché, le travail n'est pas ce qu'il devrait être. Alors, si on fait un grand saut en avant, jusqu'à Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même venu sur terre, Jésus, l'homme parfait, sans péché. Et quand on lit les récits de sa vie, les évangiles, qu'est-ce que Jésus fait? Il travaille, d'une certaine manière. Mais il est actif. Il enseigne. Il parcourt le pays. Il guérit les malades. Il chasse les démons. Quand on compare avec l'image du Bouddha, qui est là, qui médite, mais Jésus n'est pas venu sur terre simplement pour contempler en silence le divin. Quelqu'un a dit, Jésus, il était toujours occupé, mais jamais pressé. Il est impressionnant que Jésus, il avait une mission à accomplir et il a investi toute son énergie, mais sans être déséquilibré. Jésus n'était pas un esclave à son travail. On voit que, par exemple, il est invité à un mariage. Vous savez combien de temps ça dure, une fête de mariage? 7 jours, une semaine. Et Jésus se laisse inviter. Alors c'est vrai qu'il change l'eau en vin. Mais voilà, Jésus il prend du temps, passe du temps avec, avec ses amis. Mais il était clairement pas paresseux. Jésus, l'homme parfait. Parfois, les chrétiens demandent à Dieu de les rendre plus comme Jésus. Seigneur, aide-moi à aimer comme Jésus, à avoir de la compassion comme Jésus, d'être doux et humble comme Jésus. C'était quoi la dernière fois que nous avons demandé à Dieu de nous aider à travailler comme Jésus? Après sa mort, sa résurrection, son ascension, qu'en est-il de ses disciples? Qu'est-ce qu'on voit chez les chrétiens? Quelle est leur attitude au travail? Quand on lit les lettres de Paul, c'est très clair que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, par ce que nous faisons. Ce n'est pas en travaillant qu'on devient en règle avec Dieu. Mais Dieu nous sauve pour une vie qui est riche en œuvres bonnes. Et quand on regarde ce que Paul veut dire par de bonnes œuvres, ça comprend élever les enfants, ça comprend notre travail quotidien, quand on le fait par la foi. Paul exhorte les esclaves à travailler comme s'ils travaillaient pour le Seigneur Jésus et non pas simplement pour leur maître terrestre. Et puis il y a l'exemple de Paul lui-même. Paul, l'apôtre choisi par Jésus pour une mission particulière, et il écrit que quand il est venu chez les Thessaloniciens, il aurait pu leur demander de payer ses frais, mais il a préféré travailler pour n'être à la charge de personne. Il dit même, nous avons travaillé nuit et jour, Paul et ses collaborateurs. Il n'y avait rien d'indigne dans le travail. Lui, son métier, c'était fabricant de tentes. Et il l'a fait. Et Paul découvre qu'il y a certains chrétiens qui disent, ah oui, Jésus va bientôt revenir, on arrête de travailler, les gars, on attend simplement. Et il dit, ben non. Non, il est normal que les chrétiens travaillent de leurs mains pour subvenir à leurs besoins et pour pouvoir être généreux et donner à ceux qui en ont besoin. Et puis, tout à la fin, la nouvelle création. À la fin de la Bible, la vision des nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, le monde parfait que Dieu va établir au retour de Jésus, c'est représenté comme une ville. Il y a une vie en communauté. Il y a également une activité. Le Nouveau Testament dit que les chrétiens régneront avec Christ. C'est actif. Le paradis n'est pas une éternité de loisirs, mais un travail utile, fructueux, dans un monde où il n'y a plus la malédiction du péché. Le travail, comme le travail était censé être dans la glorieuse présence de Dieu. Et on peut dire que le travail que nous faisons actuellement, en attendant le royaume, c'est une anticipation de ce travail parfait que Dieu nous confiera dans la nouvelle création. Donc, redescendons sur terre. On peut se demander, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour le chrétien, travailler, c'est utiliser, mettre en œuvre les compétences que Dieu nous a données dans le service des autres. Pour le chrétien, travailler, c'est mettre en œuvre les compétences que Dieu nous a données, dont le service des autres. Et cela n'est pas limité au travail rémunéré. Ça comprend élever des enfants, s'occuper de nos parents dans leur vieillesse. Ça comprend le bénévolat. Toute activité que l'on entreprend dans le service des autres. Et la Bible déclare et affirme qu'il y a une dignité dans le travail. Le réformateur Martin Luther, il aimait dire que tout type de travail peut être considéré comme une vocation. À l'époque, on disait la vocation, c'est voilà, l'appel de Dieu pour devenir prêtre, pour avoir un métier noble. Ça, c'est une vocation. Et le reste, c'est juste du boulot. Et lui, il dit non. Tout travail peut être considéré comme une vocation. Dieu nous appelle à faire cela, à utiliser nos talents dans le service des autres. Le travail que nous faisons, si nous l'accomplissons par la foi et dans la dépendance sur Dieu, ça fait partie de notre adoration. Ça peut faire partie de notre adoration. Nous pouvons travailler non seulement pour notre patron ou pour nos clients, mais pour Dieu, pour l'honorer et le glorifier. C'est pour cela que nous avons chanté tout à l'heure, « Que ma vie te glorifie », y compris mon travail, mon activité. Donc j'aimerais vous laisser avec quelques questions. D'abord pour ceux qui sont au collège, au lycée, qui font des études ou qui suivent une formation. D'abord, quelle est ma motivation pour étudier? Est-ce plaire à mes professeurs? Est-ce avoir une bonne note, une bonne moyenne? Est-ce que c'est impressionner mes camarades? Comment puis-je me préparer pour servir d'autres dans mon futur travail? Comment puis-je me rendre utile aux autres, même pendant mes études? Pour ceux qui ont, une activité, soit un travail rémunéré, du bénévolat ou une autre activité, qui sont les gens que je sers par mon travail? Quelle est ma motivation pour mon travail? Est-ce que c'est l'appréciation de mon manager, de mon patron, de mes clients? Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que c'est le statut social? Qu'est-ce que ça changerait pour moi de considérer mon travail comme une bonne œuvre, comme une œuvre bonne, agréable à Dieu? Comment pourrais-je devenir plus comme Jésus dans mon attitude au travail? Et pour ceux qui sont peut-être au chômage ou qui cherchent du travail ou qui sont retraités, quelles sont les compétences, les capacités que j'ai, les ressources, la disponibilité que Dieu m'a donnée? Qui sont les gens que je sers actuellement dans ma situation en mettant en œuvre ces choses? Et dans quel type d'activité pourrais-je me rendre utile aux autres et ainsi honorer Dieu? Donc quelques questions à qui que nous soyons, notre activité compte pour Dieu. Parce qu'en travaillant, en fait, nous continuons ce que Dieu a commencé quand il a créé le monde. Nous mettons en action les talents que Dieu nous a confiés. Et nous ne le faisons non pas pour nous-mêmes, mais pour le bien des autres. Certes, dans ce monde déchu, le travail ne sera jamais sans difficulté. Mais fondamentalement, il n'est pas une corvée, un lourd fardeau, mais plutôt un privilège. Ça fait partie de ce que ça veut dire être humain. Et donc nous pouvons écouter la sagesse des proverbes qui nous encourage à bien travailler plutôt que d'être paresseux. Comme disait l'apôtre Paul, nous savons que dans le Seigneur Jésus, notre travail n'est pas en vain. Je vous invite à un moment de silence et de réflexion, et puis je vais prier. Père Céleste, merci pour ce que tu nous dis dans la Bible sur le travail. Merci car cet enseignement est pour notre bien. Et aide-nous à distinguer ce que tu dis sur le travail des conceptions courantes dans notre société. Aide-nous à voir ce que la Bible dit. Et les conséquences pour nous. Merci, car c'est un privilège de pouvoir t'honorer par notre activité. Car c'est toi qui nous rend capables. C'est toi qui nous donne les possibilités de servir d'une manière ou d'une autre. Père, nous voulons te remettre les difficultés que nous avons de toutes sortes. Nous reconnaissons que pour certains, le travail est pénible et est vraiment un défi. Et merci car nous pouvons être utiles dans ce monde pour le bien des autres. Et merci car nous attendons cette nouvelle création où nous serons actifs dans ta présence. Amen.